les jardinières.
Quoi de mieux pour démarrer le week-end que de parler jardinage ? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est ce que nous allons faire pendant une heure. Bonjour Steve.
Bonjour Mylène, bonjour à toutes et à tous. On est parti pour une heure à potager, dis donc.
Et c'est ça, ce matin, pour nous parler des orchidées et répondre à vos questions jardinage, nous avons le plaisir de se recevoir Katiou Racine, jardinière à Delémont. Bonjour Katiou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Bien voilà, on ouvre tout de suite les petites barrières en bois et on s'en va potager pendant une heure.
7h, 8h, les jardinières.
On va revenir quelques mois en arrière pour commencer, Katiou. Au printemps, vous étiez venue nous parler des potagers circulaires. C'était histoire de mettre un peu d'originalité dans le jardin. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez cette émission en podcast sur notre site. Katiou, on aimerait bien savoir, avoir un retour sur la mise en place de votre potager. Ça a donné quoi ? Ça a bien marché ?
Alors oui, j'étais très contente du résultat. Alors malgré qu'on a eu une année un peu particulière avec les potagers, il était bien conçu, j'ai trouvé. Alors il est vraiment amélioré, hein. C'était la première année, c'était un essai, mais j'ai eu visuellement quelque chose de très très joli. C'était rigolo, cette forme ronde qui dépassait du gazon, au milieu de mon gazon chez moi. Et puis en fait j'ai pu jouer avec l'arrosage. Vu qu'il était très dense, parce que c'est le but du potager circulaire, il était très dense, et puis vu qu'on n'avait pas le droit d'arroser, j'ai vraiment pu réduire, et puis les plantes prenant de la place protégeaient en fait les autres petites plantes, et j'ai fini par ne quasiment plus rien arroser. Donc j'ai trouvé que c'était super comme test, comme expérience, et puis après voilà, la récolte n'était pas pour une famille de 6 personnes, mais vu que c'est plus du tout le cas chez moi, c'était vraiment concluant.
Katiou, on vous retrouve dans quelques minutes. On ne va pas forcément tourner en rond autour de ce petit jardin circulaire. Vous allez surtout nous parler des orchidées. Et vous allez également répondre aux questions jardinage, évidemment dans la foulée, de nos auditrices et auditeurs.
Et puis toujours trois possibilités pour nous joindre par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et la chance de parler en direct avec Katiou. Vous pouvez aussi le faire par SMS en tapant jardin, un espace et votre question suivie de votre petit nom. Vous nous l'envoyez au 939 ou alors en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Une photo de votre jardin évidemment, hein, pas de votre belle-mère. A tout de suite chez les jardinières pour parler donc orchidées, tout ce qu'il faut savoir pour les faire fleurir. Un défi qui peut parfois prendre des airs de quête insurmontable mais qu'on relèvera la tête haute avec Katiou.
Les jardinières.
C'est la fleur incontournable tropicale de nos salons. On parle ce matin des orchidées. On a toutes et tous reçu un jour ou l'autre une orchidée, toute belle avec des fleurs, mais passé quelques semaines, il ne reste souvent que des feuilles. Alors Katiou Racine, jardinière à Delémont, va nous conseiller et surtout nous aider à chouchouter cette plante. Katiou, pour commencer, il existe environ 25 000 espèces d'orchidées. Mais quelles sont celles qu'on trouve ici, enfin dans nos salons?
En fait, on en trouve une toute petite poignée. Je ne vais pas vous dire les noms latins parce que ça ne va pas beaucoup vous parler. Après, les différentes... Si maintenant on parle de grandes surfaces, plutôt commerciales, on va trouver des orchidées qui ont différentes fleurs, mais toujours quasiment la même feuille. Si on va dans des jardineries un peu plus spécialisées, bon, chez nous, on n'en a pas, il faut plutôt partir sur la Suisse allemande. Là, on trouvera des orchidées qui ont vraiment aussi des feuilles... Peut-être si on ne voyait pas la fleur, on ne penserait pas que c'est une orchidée. Donc là, on partira vraiment dans des variétés très spéciales qui ont aussi des coûts qui sont élevés. Mais disons, la plus courante dans nos magasins ici, c'est le Phanaelopsis. Donc c'est vraiment l'orchidée qu'on voit sous toutes les couleurs possibles et imaginables. Et puis c'est aussi celle qui est la plus facile à entretenir. Donc on va retenir ce nom-là, que vous n'allez d'ailleurs pas retenir.
Donc on a l'embarras du choix, mais il y en a une en particulier qui nous titille. Mais du coup, quand on choisit une orchidée dans une jardinerie ou chez un fleuriste, à quoi est-ce qu'on doit faire particulièrement attention ?
Alors, il y a trois choses qu'on peut voir, même si on est novice dans l'orchidée. On va déjà regarder, l'orchidée devrait toujours être dans un pot transparent. Alors souvent, elle est posée encore dans un cache-pot, mais on peut se permettre, où qu'on soit, de soulever le pot qui est dans le cache-pot et puis d'observer les racines. Dans l'idéal, les racines devraient être très vertes à travers le pot transparent, même voir sortir du pot. Si vous voyez des racines qui sortent du pot, c'est plutôt un signe d'excellente santé de la plante. Ne vous dites pas « Ouh là là, celle-là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais en tout cas pas la prendre. » Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les feuilles soient vraiment très vertes et très brillantes, luisantes, on va dire. Pas de taches si possible, et puis pas de brunissement du bout des feuilles. Vraiment quelque chose de très vert. Et puis sur la hampe florale, il ne faut pas choisir celle qui est la plus ouverte, parce qu'on a tendance toujours à vouloir être attiré par le visuel. Il faut prendre une orchidée qui a peut-être 2-3 fleurs, celle du bas, qui sont ouvertes, et puis en dessus on aura des boutons floraux. Et puis ces boutons floraux, ben en fait, ça nous garantit que notre orchidée va encore durer peut-être 2 voire 3 mois, parce que les fleurs sont quand même assez lentes à s'ouvrir et durent longtemps. Donc voilà, c'est ces 3 choses-là qu'on peut bien regarder.
Alors si on l'a choisi déjà en pot, on peut l'avoir. Est-ce qu'on peut par exemple acheter des graines et les semer soi-même ?
Alors, on n'en trouve pas dans le commerce, parce que c'est la graine d'orchidée est la plus petite graine du monde. Elle mesure, je ne sais même pas comment ça s'exprime, parce que ce n'est même pas des millimètres, c'est plus petit, je crois que c'est des microns, un truc comme ça, je ne sais pas, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Puis en fait, dans une gousse d'orchidée, dans la nature, il y a à peu près 2000 graines, donc je vous laisse imaginer la taille des graines. Donc c'est quasiment impossible de semer ça soi-même. Il faudrait le faire au microscope, c'est des cultures in vitro, c'est impossible. Donc non, nous, comme un des mortels, on ne trouve pas ça. Après, dans la nature, ça se ressème tout seul, mais c'est vraiment un procédé qui est particulier, qui n'est pas réalisable à la maison.
On l'a compris, on ne va pas chercher la petite graine. On va revenir à notre pot. Après l'achat, est-ce qu'il faut impérativement la rempoter ?
Alors, l'orchidée dans la nature, si vous êtes un peu curieux puis que vous allez sur Internet, elle ne pousse absolument pas dans du substrat. En fait, c'est une plante parasite, une jolie plante parasite, qui aura vraiment plaisir à voir ses racines dans l'air. Et vu que c'est une plante tropicale, en fait, elle va capter l'humidité de l'air. C'est pour ça que je vous disais qu'une orchidée qui a les racines qui sortent, en fait, c'est plutôt un excellent signe de santé parce qu'elle aura développé un système racinaire qui est important. Et en fait, elle sortira, elle reprendra sa forme naturelle pour aller capter l'humidité de l'air. Bon, chez nous, on n'en a pas assez pour elle, malheureusement. Donc, si vous achetez une orchidée qui a un pot transparent et qui n'a pas les racines qui sortent, momentanément, c'est-à-dire pendant 6 mois, 1 année, vous pouvez la laisser dans ce pot-là. Si ensuite elle sort ses racines, il faudra la rempoter. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de bonne santé, mais elle n'aura pas assez d'humidité. Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ses racines vont sécher et ça va abîmer la plante. Donc, sur le moment, on n'a pas besoin de la rempoter, sauf si les racines sortent. Et puis, ce qui est très, très, très important quand on la rempote, c'est justement d'avoir un pot transparent. Il faut trouver des pots transparents, ça c'est hyper important. Si les racines sont dans la pénombre, l'orchidée va mourir, ça c'est sûr et certain.
Merci Katiou, on va se retrouver dans quelques instants. On va lui trouver une bonne place dans notre maison à cette orchidée, histoire qu'elle s'y sente bien. On se retrouve dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Katiou Racine, jardinière à Delémont, nous parlons des orchidées. On a parlé de son pot qui doit être transparent. Maintenant qu'on a notre orchidée qui arrive à la maison, on va lui trouver une place. Alors Katiou, où est-ce qu'on installe une orchidée dans sa maison ?
Alors l'emplacement, il a toute son importance aussi. On privilégiera plutôt déjà un bord de fenêtre. Alors pas de soleil direct, donc on mettra sur le bord de la fenêtre à l'est, où là on aura un peu de soleil le matin, mais ça c'est pas quelque chose qui va poser problème à l'orchidée. À mon avis, c'est la meilleure place pour l'orchidée, donc sur un rebord de fenêtre à l'est. On fera aussi juste attention que ce rebord de fenêtre ne soit pas ouvert régulièrement en hiver, hein, ça c'est vraiment aussi important, une petite parenthèse. On peut aussi les mettre au sud. Par exemple, pour ma part, j'ai une véranda qui donne en plein sud. J'ai toujours posé mes orchidées au sol, derrière la vitre, mais peut-être, on va dire... Alors, c'est une véranda qui a un toit en dur. Hein. Il y a pas, le soleil ne passe pas par le plafond, donc uniquement par les vitres latérales. Et puis, elles sont posées au sol environ à 2 mètres en retrait de la fenêtre. Et ces orchidées se portent très, très bien. Donc, on va privilégier soit l'est, sur un rebord de fenêtre où on n'ouvre pas trop souvent, Ou alors au sud, mais par contre, c'est clair qu'on ne va pas mettre sur un rebord de fenêtre au sud, parce que là, l'orchidée, en fait, c'est comme si vous la mettez presque dans le four, on va dire, quoi. Donc, c'est ces deux emplacements-là qui sont privilégiés. Après, une orchidée ne va pas mourir si on la met à l'ouest ou au nord, mais simplement, c'est la floraison qui va être beaucoup moins forte. Par exemple, si on la met au nord, en fait, elle va faire de la feuille, de la feuille, de la feuille, et vous n'aurez pas de fleurs, tout simplement.
Si on aime les feuilles, on sait comment faire, en tout cas.
Exactement.
La question après, cruciale, et avec laquelle on a beaucoup de peine aussi, c'est comment on arrose ces fichues orchidées.
Alors, les orchidées, c'est des plantes cool, un peu zen, comme ça, on les retrouve sur toutes les photos de zénitude possible et imaginable. Donc, qu'est-ce qu'elles aiment? C'est les bains, en fait. Elles aiment bien être baignées. En fait, il y a plusieurs façons de les arroser. Chez nous, le plus facile, c'est de remplir une bassine, une petite bassine, une cuvette, qu'on appelle chez nous, d'eau tiède, jamais d'eau glacée, ça c'est super important aussi. D'eau tiède, ou alors le lavabo de la cuisine ou de la salle de bain, peu importe. Et puis, on va tremper l'orchidée quasiment jusqu'en haut du pot. Il faut vraiment l'immerger, en fait, dans ses bains pendant 30 minutes, une heure et demie. Ça n'a pas vraiment une importance incroyable. C'est clair, il ne faut pas la laisser deux jours dans l'eau. Mais après, on va la sortir, puis on va vraiment la mettre égouttée de manière à ce qu'il n'y ait pas de résidus d'eau dans le pot. Parce que ça, c'est quelque chose qui est fatal. Ça va faire pourrir les racines, évidemment, puisqu'elles sont enfermées dans du plastique. Donc, si on laisse de l'eau dans du plastique, ça va faire pourrir le contenu. On peut aussi, ça c'est justement, on revient à l'état naturel de la plante, on peut aussi vaporiser les racines si elles sont à l'extérieur du pot ou si on a pris la peine de faire un support avec la plante fixée dessus. Ça serait encore la meilleure façon de faire, c'est de vaporiser les racines. Mais vu que le 99% des gens qui ont une orchidée long dans un pot, eh ben c'est une façon de faire qui n'est pas possible. Donc vraiment l'idéal, c'est de baigner cette plante 30 minutes, une heure dans de l'eau tiède, légèrement tiède, et de bien laisser essuyer, ça c'est super important. Et après on remet notre orchidée en place et on peut faire ça une fois par semaine pendant la végétation, c'est-à-dire qu'on va faire ça depuis mars jusqu'à novembre, et puis en période de repos, en hiver, on peut faire ça toutes les deux semaines.
Merci Cathy, vous nous vendez du rêve, on a presque envie de devenir une orchidée pour prendre son petit bain tranquille. On va se retrouver après la pause, alors on a parlé de la mise en place, du bain, on va aussi prendre soin d'elle parce que parfois l'orchidée peut subir les ravageurs, on en parlera dans quelques minutes, à tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant et comme chaque samedi entre 7h et 8h, nous parlons jardinage et c'est Cathy Racine, jardinière à Delémont, qui répond à vos questions. On parle orchidées ce matin. On avait encore quelques questions à vous poser sur les orchidées, Cathy.
Bah oui, c'est le retour du chauffage. Hein, avec le froid qui s'en vient, on fait monter les températures dans nos intérieurs. Cathy Racine, qu'est-ce qu'il faut surveiller quand justement les températures changent dans les maisons avec notamment tous les lots de ravageurs qui peuvent venir s'abriter.
Alors effectivement, quand on remet en route nos chauffages, souvent c'est assez brutal le changement de température. Ce qu'il faut vraiment veiller, c'est justement, avant on parlait par exemple des tablettes de fenêtres, pour ceux qui ont encore des anciens chauffages, comme chez moi par exemple, on veillera à ce que le chauffage ne soit pas trop fort, parce que le pot qui sera simplement posé sur la tablette, en fait les racines seront vraiment au chaud parce que cette tablette va chauffer. Donc si ces racines sont vraiment trop au chaud et puis qu'il y a cette humidité qu'on lui apporte en la baignant, ces racines, en fait, elles vont pourrir, elles vont moisir. Il va se développer des champignons parce que ça sera vraiment propice. Non seulement il y aura de la lumière parce que le pot est transparent, on aura mis à l'est, il y aura un petit peu de soleil le matin. On y apportera de la chaleur par le bas, puis en plus un peu d'humidité. Donc c'est bingo pour tout ce qui est champignons, mais qui ne seront pas des bons champignons. Donc là, on va provoquer une pourriture des racines. Le même problème si on a le chauffage au sol, parce que si les plantes sont posées au sol, on aura exactement le même problème. Donc là, il faut veiller, même si on a une soucoupe pour l'eau dessous, ça ne suffit pas à isoler. Donc il faudrait mettre un petit taquet en bois ou une petite planche roulante pour déplacer nos plantes qui fera juste l'espace pour que ça ne chauffe pas trop. Et évidemment, sur les feuilles, ça peut apporter justement aussi des ravageurs, principalement la cochenille. Je pense que tout le monde a eu ça une fois ou l'autre sur ses plantes vertes ou ses orchidées. C'est comme une petite pellicule blanche, en fait, qu'on va trouver sur les feuilles. Il y en aura une, deux, trois, quatre, dix, vingt, ça va très vite. Et là aussi, c'est vraiment un problème d'humidité et de chaleur. Et en fait, les feuilles de vos plantes vont commencer de coller. Alors là, ça commence d'être un petit peu un problème, parce que quand ça va sur une, ça a vite fait d'aller se propager sur la suivante, et puis sur le yucca qu'on a dans le coin, etc. Donc quand il arrive quelque chose, il faut vraiment tout de suite isoler la plante, la nettoyer, on va essayer de la doucher. Moi, je ne suis pas trop pour les traitements chimiques, donc on va d'abord essayer de faire du mécanique. La doucher, peut-être passer un petit peu de savon noir sur les feuilles pour rendre ça un petit peu isolant. Et puis normalement, si on s'y est pris assez tôt, eh ben, on devrait pouvoir éradiquer ça assez vite. Voilà, un petit peu les conseils pour les ravageurs.
Merci Katiou. Alors là, on va parler, c'est un peu le sujet que tout le monde aimerait savoir, parce que quand on a une orchidée, ce qui est sympa, c'est surtout les fleurs. Mais à un moment donné, ces fleurs, elles tombent. Et puis ensuite, il faut attendre qu'elles refleurissent. Et parfois, ça ne marche pas. Mais vous, Katiou, vous avez une astuce. Dites-nous
une astuce
comment on fait.
Horrible. Horrible. Alors, en fait, cette astuce, je l'ai trouvée tout par hasard il y a plusieurs années, quand on a retapé notre maison. J'avais des orchidées et puis, en fait, il fallait les enlever parce qu'on allait casser tous les murs. Et j'ai mis ces orchidées qui n'avaient plus qu'une tige florale où il n'y avait plus de fleurs. J'ai pris ces orchidées, je les ai mis à la cave. Alors, je précise que j'ai une cave qui a une toute petite fenêtre en saut de loup, et que c'est encore une cave d'une vieille maison qui a une certaine humidité. Ce n'est pas une cave des immeubles qu'on voit maintenant. Et en fait, on a retapé la maison pendant 3 semaines, 1 mois, et j'ai complètement oublié mes orchidées en bas. D'un coup, un jour, j'ai dit « Oh mince, mes orchidées !» Et j'étais chercher. Alors, elles étaient encore belles vertes, les feuilles un peu ratatinées parce qu'elles n'avaient pas eu beaucoup d'eau. Quand elles ont soif, les feuilles se chiffonnent un peu, comme ça. Je les ai baignées tranquillement, je les ai remis à leur place. Et incroyable, 2 semaines après, en fait, elles m'avaient fait des tonnes de hampes florales. Il y en avait partout, les pots tombaient tellement c'était lourd en hauteur. Et puis, en fait, elles ont été choquées. C'est pas méchant quand on dit ça, choquées, mais en fait, elles ont eu vraiment une pause où elles n'ont plus été arrosées, quasiment plus de lumière, rien. Puis tout d'un coup, bingo, elles ont eu de nouveau tout. Et puis, en fait, elles avaient fait suffisamment de réserves pour pouvoir vraiment éclore, en fait.
Et ça a duré combien de temps, cette pause ?
Moi, je pense qu'elles sont quand même restées 1 mois, quasiment.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
Jolie petite tape sur les fesses.
C'est ça, c'est ça.
On a reçu aussi une question. D'ailleurs, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, que ce soit sur les orchidées ou sur d'autres domaines. Vous pouvez nous écrire via le formulaire en ligne sur notre site internet. Également, passer par le service SMS en mettant « jardin » au début de votre message. Et vous envoyez tout ça au 939. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler, Mylène, à quel numéro ?
Au 0901 70 20 20.
Exactement. Et on a reçu un message de Valérie qui nous dit « J'ai une dizaine d'orchidées. Ces dernières semaines, il y a des feuilles jaunes. À quoi est-ce dû ?»
Alors, il peut y avoir deux facteurs au jaunissement des feuilles. Soit il y a eu un arrosage trop intense. Elles n'aiment pas du tout trop d'arrosage, en fait. C'est pour ça qu'on dit une fois par semaine, mais ça dépend aussi un petit peu du lieu où on a notre orchidée. Donc ça, c'est possible qu'il y ait un petit peu trop d'eau. Et on peut vraiment un petit peu jauger avec les feuilles l'arrosage. Tant que les feuilles sont belles vertes et puis vraiment luisantes et puis bien, bien lisses, c'est que l'arrosage est optimal. Si ça jaunit, c'est qu'en général, il y a trop d'eau, mais c'est-à-dire trop d'humidité. Parce qu'en fait, vu qu'on ne laisse pas d'eau dans le fond des pots, c'est trop d'humidité. Là, il serait intéressant de regarder l'état du pot, voir s'il y a beaucoup de condensation peut-être dedans, vu que c'est logiquement des pots transparents. Et puis, il peut y avoir aussi une autre chose, c'est justement maintenant qu'il recommence de faire un petit peu frais la nuit, est-ce que tout d'un coup, elle serait vers une fenêtre que Valérie met en imposte, parce qu'on a fait ça tout l'été pour rafraîchir nos nuits. Donc, peut-être pas penser que c'est descendu de presque 10 degrés la nuit. Voilà, il peut y avoir ces deux facteurs-là qui font qu'il y a le jaunissement des feuilles. Mais moi, je tablerai sur l'arrosage.
Merci beaucoup, Katiou. Alors maintenant, on n'a plus aucune excuse pour ne pas avoir de belles orchidées. Merci beaucoup pour tous vos conseils. On va se retrouver dans un instant pour la suite des questions que nous avons reçues durant la semaine.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de nous les envoyer.
Exactement, par SMS, vous pouvez taper jardin, un espace suivi de votre question et votre petit prénom. Vous nous envoyez tout ça au 939. Vous pouvez aussi remplir le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières. Et là, vous pourrez ajouter une photo pour étayer votre propos et nous livrer votre situation de visu. Et puis, il vous reste aussi le téléphone si vous voulez papoter avec nous maintenant en direct. C'est un plaisir qu'on vous accueille au 0901 70 20 20 36 centimes la minute.
Et on parlait justement de photos, Steve. On a reçu de Josine Dareuse une image, une photo qui nous dit « Bonjour, quand couper mes hibiscus et à quelle hauteur ?» Donc, Katio, j'imagine que sur la photo, ce sont des hibiscus.
Effectivement, c'est juste, c'est la bonne plante. Alors, les hibiscus, c'est une plante qu'on voit maintenant fleurir dans les jardins. Donc, c'est une plante qui est, c'est un arbuste, en fait, qui est assez tardif. Donc, il peut fleurir, étant donné que nos saisons sont un peu fofolles. Ça pourra fleurir facilement, je pense, jusqu'à mi-octobre. Donc, c'est super sympa. Donc, on ne touche surtout rien maintenant. Si on veut un peu motiver la floraison, on peut, si Josine a le temps, on peut enlever les fleurs fanées, ça redonnera un bouton floral. Donc là, on pourra vraiment traîner dans la saison tard pour cette floraison. Et on va tailler cet hibiscus plutôt quand ça sera fini. Mais quand aussi l'arbuste sera en pause, c'est-à-dire plutôt sur le début de l'année, quand il ne gèle pas trop. Moi, je dirais janvier, fin janvier, courant février, c'est vraiment une période idéale. Et puis, la hauteur, alors, l'hibiscus, il faut savoir qu'il fleurit sur une pousse qu'il va faire au printemps. Donc, il va faire une longue tige et puis les fleurs vont venir sur cette tige. Donc, en fait, tout ce qui est restant de l'année d'avant, on peut rabattre, couper ou descendre l'arbuste. L'idéal, c'est de le rabattre à peu près à mi-hauteur, pour autant qu'on ne veuille pas qu'il nous cache quelque chose ou comme ça. On le rabat à mi-hauteur. Et puis après, s'il y a des branches plus petites, sur le côté, on va essayer d'y donner une jolie forme arrondie, parce qu'il a un port arrondi naturellement. Et on va laisser ces petites branches sur les branches, on appelle ça des yeux, c'est ces petites boules qu'il y a sur le côté. On va en laisser deux, trois. Et puis là, il va venir un nouveau rameau. Et puis ce nouveau rameau, au printemps, enfin à l'été plutôt, vu que c'est un arbuste floraison tardif, des nouvelles fleurs là-dessus. Et puis on veillera aussi d'enlever tout ce qui est sec. Donc quand il aura repris, ce sera remis en feuilles, on va prendre une scie ou un sécateur, puis on va aussi le débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que si on laisse du sec dans un arbuste, ben ça peut attirer des maladies, des champignons, des ravageurs. Donc on va enlever tout ça pour éviter d'attirer toutes ces choses-là.
Nous avons reçu un appel et j'accueille avec grand plaisir Janine. Bonjour Janine.
Bonjour.
Janine, vous avez une question pour notre invité, Katio Racine. Je vous laisse la poser tout simplement.
Oui, alors j'ai des framboisiers, pas des framboisiers, des fraisiers qu'on a mis cette année en terre. J'aimerais savoir pour l'hiver, qu'est-ce que je dois leur faire? Est-ce que je dois les laisser comme ça, les couvrir ou...
Non, il faut, bonjour, pardon, déjà, pour commencer. Non, il faut surtout pas les couvrir. Il faut vraiment, est-ce qu'ils ont fait des petits? Il y a eu des petits.
Oui, il y a des stolons que j'ai. Ouais. Un peu coupé au fur et à mesure.
Vous les avez enlevés, oui, d'accord. Donc les stolons, vous pouvez les enlever parce que ça va lui prendre trop d'énergie pendant l'hiver. Après, vous pouvez les replanter ailleurs ou bien les mettre au compost ou les offrir. Il y en a qui sont tout contents. Ce qu'il vous faut faire, c'est vraiment très, très bien pailler le sol. En fait, les plantes qui poussent chez nous naturellement aussi, vu qu'on a des fraisiers des bois, par exemple, en fait, ils ne craignent pas du tout les gelées. Ce qu'ils craignent, c'est plutôt le système racinaire. Donc, en fait, l'important, c'est vraiment de laisser les parties aériennes de manière à ce qu'elles puissent avoir les aléas de nos hivers, c'est-à-dire du soleil, de la neige, peut-être, du gel, etc. Par contre, mettre une bonne couche de paille, mais plutôt de la laine de bois, pas de la paille... Pas de la paille naturelle,
parce que
de la
laine de bois. On a mis une toile sur la terre.
Ah, vous avez
mis... On a fait ça.
Ouais.
Je dois quand même mettre de la paille.
Alors, le problème, c'est que le plastique, si vous voulez, pendant l'hiver, alors c'est super en été contre les mauvaises herbes, mais en hiver, en fait, il ne va pas permettre les échanges entre le sol et puis l'air pour faire tout ce qui est nécessaire. Et puis, avec l'humidité qu'on a dans nos régions, bien souvent, ça reste trop humide et en fait, ça fait pourrir les racines de la plante, quelle qu'elle soit. Hein. L'idéal, ça serait de l'enlever ou alors de l'écarter un peu de manière à ce qu'il y ait, je ne sais pas, si votre fraisier fait 20 cm de diamètre, qu'il y ait peut-être 10 cm de chaque côté où la terre peut respirer, puis là, vous paillez un peu. C'est vraiment l'idéal si c'est possible.
On y va comme ça ?
Oui, on y va comme ça.
Ça marche, c'est moi, Marie-Janine. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne
journée.
Bonne
journée à tous. Merci, au revoir. Merci.
0900 70 20 20, si vous voulez encore nous appeler, il va gentiment être l'heure aussi, nous, de passer à la suite. Mais si vous avez encore des questions sur le jardinage, les fraisiers ou autres, ou les orchidées, puisque c'était le thème d'aujourd'hui, 0901 70 20 20, 36 centimes la minute.
Et on se retrouve dans un instant, on va parler punaise et gazon.
7h, 8h, les jardinières.
C'est déjà presque la fin des jardinières, mais on ne va pas se quitter, Katiou, sans répondre aux dernières questions reçues. On a reçu cette question de Nathalie de Courandelin qui nous dit « Bonjour, j'ai une invasion de punaises vertes dans mon jardin. Elles s'attaquent surtout aux tomates, mais sont également présentes sur les poivrons, les courgettes, les côtes de bête et les haricots. Bref, elles sont partout. Actuellement, je les enlève manuellement. J'y passe un temps fou, tellement le jardin en est envahi. Y a-t-il une solution miracle pour les éradiquer et surtout pour qu'elles ne reviennent pas l'année prochaine ? Merci pour vos bons conseils. »
Les punaises, non. Alors, je réponds assez drastiquement, non, il n'y a pas de solution miracle, ni pour qu'elles s'éradiquent, ni pour qu'elles ne reviennent pas. Moi, je trouve que c'est embêtant, mais c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que le jardin est bien naturel, donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, il existe maintenant dans le commerce un produit purement naturel qui s'appelle la terre de diatomée. Donc, on pourrait pulvériser ça. C'est une espèce de poudre minérale, en fait, qui va se poser sur la punaise puis qui va lui bloquer les articulations. Donc, cette bestiole ne va plus pouvoir se déplacer et va mourir. Donc, c'est une façon très, très naturelle d'essayer d'éradiquer un petit peu. Mais il va falloir encore y passer un temps fou parce que manuellement, c'est le meilleur moyen pour les enlever.
Nous avons reçu également une question de Germaine de Virel. Elle nous a envoyé une photo de son gazon qui a bien souffert de la canicule. Elle nous dit ceci. Bonjour, notre gazon a souffert durant la sécheresse, scarifié le 25 août et mis de l'engrais le 2 septembre. Il est encore bien clairsemé. Nous habitons à 830 mètres d'altitude. Ensuite, elle a plein de questions. Est-ce qu'on peut lui remettre de l'engrais pour le rebooster encore une fois, attendre que la nature lui redonne vie, ressemer du gazon aux endroits clairsemés? Voilà, elle attend nos précieux conseils sur sa situation.
Alors, le gazon, chez tout le monde, cette année, il était brun, pas vert, donc voilà. Il ne faut pas trop s'affoler, parce que le gazon, en fait, c'est une graminée, et puis la graminée, c'est quasiment increvable. Donc, le gazon, il va automatiquement se reverdir seul, il va reprendre sa place, il faut lui laisser le temps, il faut arrêter d'arroser ses gazons, puis de les cribler d'engrais, c'est beaucoup trop tôt maintenant. Laissez faire la nature. Laissez faire le frais qui va revenir va reverdir tout ça. L'eau qui tombe aussi s'étend va reverdir tout ça. Et seulement une fois qu'il est vert et que vous avez dû tondre une fois parce que vous avez estimé qu'il était de nouveau à peu près joli, vous pouvez sans problème rescarifier derrière. Normalement, on scarifie fin septembre, donc août, c'était un petit peu tôt. On va pouvoir scarifier, ressemer. Une fois qu'il a poussé, on va retondre une fois. Et puis quand tout est joli, une fois que là, tout est beau, on met de l'engrais. L'engrais, il est fait pour booster quelque chose qui est existant, pas quelque chose qui n'est pas existant. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'engrais sur du gazon qui est brun. Il faut mettre de l'engrais sur du gazon qui est vert.
Merci beaucoup, Katiou, pour toutes vos... On vous écoutait religieusement avec Steve. Merci pour votre visite. On rappelle que vous êtes jardinière à Delémont et on se réjouit de bientôt vous accueillir à nouveau chez les jardinières. On vous souhaite un bon week-end.
Merci à vous aussi.
Eh bien, rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode des jardinières. On sera en compagnie cette fois-ci de Claudine Miseret, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à Charmoille. Elle nous dira tout sur la conservation des fruits et des légumes, histoire de profiter de leur saveur tout au long de l'année.
Et on se réjouit déjà. Bon week-end, Steve.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Vous retrouverez cette émission en cours de matinée sur notre site pour écouter tous les bons conseils sur les orchidées. Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.